L'Église, avant tout, c'est un lieu de relation. Enfin, j'espère que vous comprenez ça. Avant tout, un lieu de relation. Un lieu aussi, non, un corps. J'aime pas le mot lieu parce que sinon on reste dans le schéma religieux. L'Église n'est pas un lieu, l'Église est un corps. Et nous sommes le corps de Christ où nous sommes appelés. Et si le corps du Christ, c'est que nous avons tous cru que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et que par le sacrifice, par la foi en son sacrifice, nous avons la vie éternelle. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Bon, c'est un bon début d'unité, ça. Hein, quand on croit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il nous a donné la vie éternelle, c'est déjà pas mal. Hein, on peut se dire qu'on peut faire un bon petit bout de chemin ensemble. Parce que l'essentiel, c'est ça. Le reste, si vous me permettez l'expression, c'est peanuts, c'est rien du tout. C'est la croix et toute la vie de l'Église, toute notre vie est basée sur l'œuvre de la croix. Si vous oubliez ça un instant, si nous oublions ça, nous allons nous fourvoyer. C'est pourquoi nous chantons et nous célébrons le Seigneur pour lui dire « Viens transformer nos vies, vie avec un S ». C'est pas ta vie, oui, c'est nos vies. Hein. Je parie que tu as réagi, tu l'as vu, nos vies, ouais. Et nous avons la responsabilité, en tout cas, que lorsque Dieu nous parle, de changer notre comportement. On prie souvent que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. On le prie, mais c'est difficile de passer à l'état d'acte. Vous comprenez ça? C'est très compliqué. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est souvent des arbres tordus. Et pour redresser un arbre, vous savez ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut serrer. Et ça, il faut permettre à l'œuvre du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne veut pas simplement bénir. Hein. Je vous surprends en disant ça? Le Saint-Esprit veut construire, bâtir. Jésus dit, je bâtis mon Église. Et le Saint-Esprit veut faire de nous des colonnes droites pour que le temple soit un temple droit, à l'image de ce qu'il y a dans le ciel. Je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière, ce n'est jamais le ciel qui se conforme à la terre. C'est toujours la terre qui se doit se conformer au ciel. Vous connaissez le thème du moment? Qui peut me dire? Le thème du moment, c'est quoi? Alors, si vous ne me répondez pas, je démissionne. La prière. Amener un esprit de prière dans l'Église. Une mentalité de prière. Une culture de prière. Parce que la prière, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire et à vivre. Prier, ça va à l'encontre même de ce que nous pouvons être. C'est difficile de prier. C'est facile de prier quand tout va bien. C'est beaucoup plus difficile de prier quand tout va mal, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas, moi en tout cas, c'est comme ça. Quand les mouvements de tension sont là, c'est là où je prie le moins. Alors que ça devrait être le contraire, on va le voir. Qui n'a pas eu le petit livret? 30 étapes pour encourager à prier. Si vous ne l'avez pas eu, vous voyez, il y a un petit tas là-bas d'une, je dirais, une bonne dizaine de livrets sur la petite étagère noire. Servez-vous. J'étais encouragé cette semaine parce qu'un frère qui a plusieurs années de vie chrétienne a dit à la réunion de prière, c'est une bonne initiative d'avoir fait cela. Là, je suis en train de me passer de la pommade sur le dos. Ah, oh, ça fait du bien. Il a dit, ça m'aide énormément. Ne serait-ce que les deux premières, pas leçons, mais les deux premiers jours, les deux premières étapes, où il nous est présenté Dieu comme étant notre Père, devant qui nous pouvons nous approcher. Et rien que ça, ça l'a aidé cette personne. Donc, si vous n'avez pas encore commencé ces 30 étapes pour encourager à prier, faites-le. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre de prier même dans les moments difficiles. Parce que c'est sans doute la période la plus dure à obéir à la prière, c'est quand ça ne va pas. Je peux avoir le truc, Nat? Merci. J'espère que ça va aller. Alors, vous me pardonnerez, mais le PowerPoint, normalement, devait défiler. On devait avoir des apparitions à chaque clic. Et puis, ça, ça s'est mis à la technique hein, la semaine dernière. La prière pour ébranler les fondements. Alors c'est un mot bien, enfin c'est une expression bien compliquée, mais déjà il y a le mot prière, mais vous verrez il y a aussi le mot adoration dans ce que je vais vous partager. Pourquoi ? Parce que la prière ce n'est pas simplement quémander quelque chose, mais je crois qu'en priant et par la prière, en tout cas j'ai cette conviction, je sais que il y a des choses qui peuvent et qui doivent et qui seront ébranlées lorsque je prie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la semaine dernière, de l'enseignement et la prédication de la semaine dernière, mais à un moment donné, il y a une image qui nous a été donnée, qui m'a interpellé. C'est l'image, vous savez, de l'iceberg, où on voit la partie émergée de l'iceberg et on nous a dit, c'est ce qui est en dessous qui est important. Et c'est ce qui est en dessous qui doit être ébranlé. C'est l'invisible qui doit être touché. Et dans tout ce qui nous entoure, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il y a un monde spirituel. Il y a des choses qui sont bâties spirituellement qui, en réalité, influent directement notre terre. Et en tant que fils ou fille de Dieu, du Père, nous avons, un, l'autorité pour ébranler les fondements, certains fondements, oui. Et pas simplement l'autorité, mais nous avons la mission d'y aller et de le faire. Ça va bien plus loin que de dire c'est juste une possibilité. Non, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons l'autorité et nous devons ébranler certains fondements. Autrement dit, si tu veux que les choses changent dans ta famille, prie. Si tu veux que les choses changent dans ton église, prie. Si tu veux que les choses changent à ton travail, prie. Parce que c'est la prière qui ébranle l'invisible de ce qui conditionne aujourd'hui la réalité de ta vie. Oh, j'ai bien dit ça. J'aurais pu le répéter, mais... Alors, on va raconter une petite histoire. Cette histoire, moi, je l'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup cette histoire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas... Alors, d'abord, je vous raconte le contexte, peut-être. C'est plus sympa, parce que c'est une longue lecture, là. Et comme aujourd'hui on devient fainéant, qu'on n'aime pas lire, on préfère entendre les histoires. Hein. Alors je vous raconte l'histoire. Il était une fois, Paul et Silas, qui étaient partis pour un deuxième voyage missionnaire. En fait, leur but, c'est de prêcher l'évangile. Et je ne sais pas si vous avez une image devant les yeux du bassin méditerranéen, mais en fait, ils étaient partis d'Israël, ils étaient remontés comme ça, enfin, je me mets dans votre sens, comme ça, vous comprenez, pour les dyslexiques, c'est mieux. Ils remontent comme ça, et à un moment donné, Paul dit, on va aller prêcher en Asie, on va aller en Turquie, en gros. Il est en train de dire, on va aller prêcher là-bas, en Turquie, en Asie. Et... La première des choses, c'est qu'on s'aperçoit que l'Esprit de Dieu les amène ailleurs. En gros, il dit, tu vas... moi, Paul, enfin, je suis pas Paul, mais vous comprenez. Paul, je m'appelle Bruno, pour ceux qui me connaissent pas. Bruno, tu vas... J'ai envie d'aller par là, et Dieu dit, tu vas à l'endroit qui est opposé à l'endroit où tu veux aller. Déjà, là, si tu veux servir Dieu, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que ses pensées ne sont pas tes pensées. Ses voix ne sont pas tes voix. Et si tu veux servir Dieu, il faut avoir suffisamment de souplesse pour prendre la direction que décidait le Saint-Esprit dans ta vie et pas ce que toi tu as décidé. Et vous savez, quand on dit « Viens transformer nos vies, viens dans ma vie, viens Seigneur, règne », je peux vous dire que le sens même de ce que veut dire « viens transformer, viens régner ma vie », c'est que tu dois être capable à un moment donné, quand Dieu te dit « n'y va pas, il va là-bas », c'est d'obéir. Donc, ils avancent, et puis ils disent « mais c'est pas grave, si l'Esprit de Dieu ne veut pas là, et malin Paul, hein, il dit « je vais aller peut-être un peu plus par là, enfin je vais contourner l'obstacle de Dieu ». Il veut rentrer en Bithynie, je crois, c'est une province. Il veut rentrer là-bas, et puis là, en Bithynie, pareil, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, il est écrit. Alors Paul, je le trouve, enfin, je m'imagine un peu son interrogation dans ces moments-là, que fait-il ? Dans la nuit, il dort, et dans la nuit, il voit l'image d'un Macédonien, un homme de Macédoine qui dit « Viens me secourir, viens nous secourir ». Il partage ça avec ses amis, Silas et les autres, Luc. Et là, ils prennent la décision de prendre le bateau et d'arriver en Macédoine. C'est même intéressant. C'est que lui, Paul, voulait garder les pieds sur terre, bien tranquillement, et Dieu l'envoie dans une autre direction par un autre moyen de communication. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que parfois même, on s'imagine aller à un endroit dans certaines conditions et Dieu nous envoie ailleurs avec un autre moyen de communication. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, ils arrivent dans cette ville, dans une ville qui s'appelle Philippe, je crois. Et puis alors, pourtant, ils pensent avoir obéi au Seigneur. J'ai obéi. Ils ont suivi le plan de Dieu. Ils ont fait tout ce que Dieu leur demande. Ils arrivent dans cette ville, et ils se disent, c'est la bénédiction, ils rencontrent une femme, enfin, dans ces pays-là, dans ces contrées-là. Ils prêchent à un groupe de femmes, les femmes se convertissent. Waouh ! Ils disent, on est dans la volonté de Dieu. Alléluia ! J'imagine, ils sont remontés comme des petites machines à musique, là. Mais ils arrivent dans une autre ville, et là, pendant tout le temps où ils allaient à la prière, il y a une dame, une femme qui les suit, et la Bible dit qu'elle a un esprit de python, on va dire que c'est un esprit de divination. Et puis elle est en train de dire, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, etc., etc. Elle commence à, plusieurs jours comme ça, à élever la voix derrière eux. Au bout de 3 jours, Paul est agacé. Et il dit, elle va arrêter au nom de Jésus. Il chasse le démon, en fait. Il chasse l'esprit impur de cette femme. Le problème, c'est que cette femme, elle a rapporté beaucoup d'argent par des ventes de trucs, d'idoles, etc. Ils sont, du coup, pris, faits prisonniers, jetés en prison, battus. On les attache à des chaînes et les chaînes sont liées au mur. Ils ne peuvent plus bouger. Et voici la situation. Ils sont dans la prison intérieure de la ville. Ils sont liés de chaînes. Et regardez, vers le milieu de la nuit, vers minuit, allez, Paul et Silas prient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Or, ce n'était pas au milieu de la nuit. Non, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et tout le monde les entendait, regardez, et tout d'un coup, il se fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison sont ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrent, et les liens de tous les prisonniers sont rompus. Pas simplement eux, leurs propres chaînes, les liens de tous les prisonniers. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer. Vous parlez. Il pense que tous les prisonniers sont sauvés. Il lui dit, moi, je suis foutu. Hein. Je passe à la casserole, là. Pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir. Il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus !» Parce que le geôlier, lui, il est en train de dire, « Seigneur, il voit tous ces hommes, ça doit être des dieux !» Et Paul les renvoie vers qui ? Jésus ! Il renvoie, vous savez, il ne faut pas idolâtrer des hommes. Il ne faut pas croire que ce sont les hommes qui changent les choses. C'est Jésus qui change les choses dans la vie des gens. C'est Jésus qui est à l'œuvre là, ici. Ce ne sont pas eux. Et Paul l'avait saisi à travers la louange, à travers ses prières. Toutes les prières que tu peux adresser au Seigneur, c'est Dieu qui les accomplit. J'ai bien entendu, ce n'est pas nous qui combattons. Bien sûr, on combat dans la prière, parce que c'est une lutte de prier. Mais tout se fait dans le monde que nous ne voyons pas. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava les pieds L'homme qui avait saisi, mis des chaînes, maintenant lave les pieds des disciples. Et aussitôt, il fut baptisé. Intéressant. Il n'a pas fait de cours du baptême. Il a cru, il s'est fait baptiser. Lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est une belle histoire, hein? Et pourtant, je peux vous dire qu'en se mettant, j'ai essayé de me mettre un moment à la place de ces hommes. Je me dis que là, au départ, je ne sais pas comment marche la petite... Enfin, vous allez le lire avec moi. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je peux vous dire que pour être là, à ce moment-là, moi, je n'aurais pas été dans cet état-là. En toute honnêteté. Vous savez ce que j'aurais fait? Je me serais plaint. J'aurais pleuré. J'aurais dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai obéi pendant des années. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je voulais à droite, tu m'as dit d'aller à gauche, j'y suis allé. Je t'ai obéi et je me retrouve en prison, Seigneur. Vous savez ce que j'aurais dit au Seigneur? C'est pas juste. J'aurais fait mon Calimero, pour ceux qui connaissent le dessin animé. C'est vraiment trop injuste. Mais je vous place devant... vos réactions et dans vos réactions par rapport à vos situations difficiles. Quelle attitude avez-vous? Celle de Paul et de Silas qui prient et qui louent le Seigneur dans des moments terribles et très difficiles de leur vie ou priez-vous à la manière calimérorienne? Tiens, j'ai inventé un nouveau nom. Il y a quelques principes à retenir. Donc vous avez tout en vrac. C'est dommage parce que j'aurais aimé que, s'il vous plaît, ne lisez pas tout. Je sais que vous allez le faire, mais ne lisez pas tout de suite. Le premier principe, Dieu nous appelle à prendre du terrain, à remporter des victoires qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous appartiennent plus. Peut-être avez-vous perdu des choses dans votre vie. Je parle sur le plan spirituel, hein, mais peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais Dieu veut implanter son règne, son royaume, sa volonté dans des endroits où ils ne le sont pas aujourd'hui, dans la vie de vos proches, dans votre propre vie, dans la vie peut-être de vos collègues, peu importe. Et en tout cas, Dieu veut implanter son règne, son royaume, c'est son but. C'est pourquoi il nous dit « Allez, faites des nations des disciples ». Parce que lorsque nous faisons des disciples, en réalité, nous permettons au règne de Dieu de se manifester dans l'endroit où il se trouve. Il y avait en Macédoine des personnes que Dieu voulait sauver. Il y a autour de vous des personnes que Dieu veut sauver. Il y a dans cette ville, dans cette région, des personnes que Dieu veut sauver. Je le vois parce que j'ai une vie pastorale, mais j'ai une vie aussi de travail. Et je vois bien parfois la détresse de mes collègues de travail, la détresse des gens. Je le vois. Il y a une réelle, vraiment soif de Dieu au fond des cœurs. Il y a des gens qui sont comme les Macédoniens, qui crient la nuit, qui disent « Viens me secourir ». Il y en a plein autour de nous. Et moi, je le vois. Je sais pas vous. Mais moi, je le vois. Et Dieu veut amener son règne dans la vie des gens. Le deuxième principe, c'est Dieu qui est l'architecte de toute invasion dans ce qui ne nous appartient pas. Alors, c'est une expression un peu pompeuse, mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que, comme je vous le dis, Paul avait décidé d'aller en Asie pour prêcher l'Évangile et lui dit, non, tu iras en Macédoine. Et vous savez, je vais vous dire une chose. C'est bon que Dieu s'oppose à notre volonté. Parce que lorsque Dieu s'oppose à notre volonté, il le fait d'une manière claire. Il dit, je ne veux pas que tu fasses cela, je veux que tu fasses cela. Et je veux rien dire, mais regardez ce qui se passe. Une première fois, il est dit que l'Esprit de Dieu leur parla autrement. La deuxième fois, il dit que l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'entrer en Bithynie. Et la troisième chose, c'est que Paul reçoit une vision. S'ils ne sont pas convaincus à un moment donné qu'ils doivent aller en Macédoine, je comprends rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon que Dieu se soit opposé à eux parce qu'il a insisté, il a appuyé vraiment d'une manière très forte. Vous allez en Macédoine parce que cette conviction de départ, ça va être déterminant pour leur suite. Autrement dit, quand tu es convaincu au départ que Dieu t'amène à tel endroit, à faire telle chose, c'est vraiment important dans les moments où tu vas devoir te retrouver en prison, où tu vas devoir lutter dans la prière. Parce que c'est dans ces moments-là que ta foi, ta persévérance et ta force seront nécessaires. Tu comprends ce que je veux dire ? En fait, c'est là où tu as besoin d'aller puiser au départ, dans ce que Dieu te dit, dans ce que Dieu t'a dit. Moi, ce qui m'a permis de tenir pendant toutes ces années, c'est que je me suis toujours tenu à ce que Dieu me disait. J'ai pris chaque parole de Dieu, je peux vous le dire. Parce qu'il y a des gens qui disent, cette parole n'est pas de Dieu, elle ne me correspond pas. Oui, tu fais ce que tu veux, mais moi, toute parole que Dieu m'a dite, toutes, je vous le dis, je les ai toutes écrites. Et régulièrement, je les réécoute quand c'est enregistré ou je relis. Ça m'a permis, dans les moments les plus compliqués, de tenir ferme dans ma foi. Le problème, c'est que Dieu nous parle. Il parle, l'Esprit est clair. Ils sont empêchés par le Saint-Esprit. Ils parlent, Jésus ne leur permet pas. Et il parle même par vision, il parle dans sa parole. Le problème, c'est que nous prenons cette parole, nous disons... Et on jette, on le fait à la russe. On jette le verset derrière nous. Moi, je vous invite à faire une chose. Reprenez toute parole que Dieu vous a dite, toutes les paroles. Parce que Dieu ne parle pas au hasard. C'est vrai qu'on prophétise en partie, je l'accorde. Mais j'ai jeté, durant toutes ces années de vie chrétienne, ça fait 30 ans maintenant que je connais le Seigneur, j'ai jeté très peu de paroles que Dieu m'a dites. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu te parle, c'est en dehors de ton temps, en dehors de la circonstance actuelle. Souvent, tu dis, ça ne correspond pas à mon présent. Donc, tu jettes. Alors que c'est une erreur fondamentale. Dieu parle au-delà de ton temps, de tes circonstances. Il est en train de parler de l'avenir, du futur, de tout faire en maintenant. Et c'est ce que Dieu fait dans l'Apocalypse. C'est pour ça que c'est difficile à interpréter l'Apocalypse. Parce que tout se mélange. Le temps est mélangé. Le temps et le temps de Dieu. L'apôtre Jean voit en fonction de ce que Dieu dit dans son univers à lui, pas dans ce que nous voyons. Et je vous invite vraiment à aller chercher, à aller creuser les paroles que Dieu vous a données. Et priez-les. Et attachez-vous à ces paroles. Parce que c'est dans ces moments-là que vous bâtissez votre foi. Peut-être que Dieu vous a parlé un jour par un message, une prédication. Qu'avez-vous fait de ce message ? Peut-être que Dieu vous a parlé par une circonstance, ou alors tout simplement un verset de sa parole. Qu'avez-vous fait de cette parole ? Est-ce que vous l'avez jeté à la russe ? Vous l'avez bu et jeté le verre ? Ou est-ce que vous le gardez accroché à vous ? Et ça, c'est vraiment important. Ce que je vous dis là, c'est une clé pour réussir la suite. C'est lorsque j'obéis à ce que Dieu m'a dit... que la conviction est forte et qu'elle sera source de foi, de force et de persévérance dans les moments difficiles. Mais notre problème, ton problème, est que tu regardes souvent plus aux circonstances qu'à ce que Dieu a pu te dire un jour. On regarde nos circonstances, on laisse les émotions nous envahir, on laisse le découragement, la difficulté nous envahir, et on en oublie. Et nous, de ce fait, vous savez ce que nous faisons ? Nous altérons nos prières. Nous diminuons la prière. Autrement dit, je prends un exemple tout simple. Imaginez un instant que Dieu m'ait parlé, qu'il m'a dit, « Voilà, Bruno, je t'ai donné une identité et tu seras pasteur d'une église. Je le scelle maintenant dans le ciel. D'accord ? Je garde cette parole. Imaginons que je l'ai gardée. Et puis qu'à un moment, peut-être, je prends le cas où je la garde. Le jour où ça arrive, le jour où les difficultés arrivent, je suis là, je dis, ma prière, je peux dire, Seigneur, je déclare, tu m'as déclaré comme ayant reçu l'autorité pour être pasteur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, je déclare maintenant que je ne résisterai à la tentation d'abandonner. Et ma prière, elle a une portée, elle peut ébranler des choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Par contre, si j'ai pris cette parole et que je l'ai mise loin derrière, et puis qu'à un moment donné, la difficulté arrive et que je suis quand même rentré dans le ministère pastoral, et puis que je laisse tomber ça, la difficulté arrive, et vous savez ce que va être ma prière ? ma prière va être, Seigneur, t'es sûr que je suis appelé à être pasteur? Est-ce que vous comprenez la différence entre ces deux prières? Est-ce que vous comprenez la différence entre une prière qui peut vraiment ébranler et une prière qui est une prière de lamentation? Dieu entend cette prière, je ne dis pas, mais elle n'ébranle pas les fondations. Elle ne fait pas bouger les choses. J'espère que je vous convainc de ça. Quel principe à retenir de cette histoire? Le troisième principe, c'est qu'il n'y a pas d'invasion, de prise de nouveaux territoires sans une dimension de combat. L'ennemi résiste toujours à l'invasion du peuple de Dieu. On le voit bien dans toutes les guerres que nous voyons. Daesh, on ne les a pas délogés comme ça. Hein. Je ne sais pas, la dernière ville, là, je ne me souviens plus de son nom, c'est Raqqa. Cette dernière ville, ils se sont battus bec et ongle pour, dans chaque maison, chaque quartier, Daesh s'est battu. Parce que l'ennemi ne se laisse pas envahir comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Et la servante avait un esprit de python. Ça, je vais passer. Elle ne cesse de polluer leur action. Mais c'est pas parce que Paul a obéi qu'il allait pas se retrouver devant des difficultés. Au contraire, ce n'est pas parce que les difficultés ne viennent pas uniquement lorsque tu désobéis. Et souvent, on nous dit, ah ouais, mais si t'as des difficultés, c'est parce que t'as désobéi. Vous avez déjà entendu ça? Combien de personnes nous ont découragés? C'est normal ce qui t'arrive. Vous savez, c'est le coup du... tu as touché le feu, tu t'es brûlé, bien fait pour toi. En gros, c'est ça, hein? Non? Combien de fois j'ai entendu ça? Enfin, je sais qu'une fois, j'ai dit ça à mon fils qui s'est brûlé les fesses contre le feu à pétrole. Mais souvent, on est... Vous comprenez ce que je veux dire? On est formaté parce que les gens nous ont dit. Et parce que tu as des difficultés, tu dis, ah ben, j'ai sans doute désobéi. Et vous savez comment se transforme notre prière après? Ah, Seigneur, j'ai désobéi, je te demande pardon, oui. Ah, Seigneur, tu vois ce qui m'arrive, etc., etc. Le sens de la prière, la puissance de prière, la qualité de la prière change totalement. Ne remets pas en cause ton engagement à servir Dieu dès que la difficulté se présente. Prends l'arme de la prière et sers-toi d'elle. Prends l'arme de la prière et sers-toi d'elle. Et si tu obéis, et si tu penses que tu obéis, si tu crois que tu obéis et que tu as difficulté, c'est bon signe. Bonne parole d'encouragement. C'est la prière qui fait bouger les choses. C'est pas tes pleurs. Ah, tu peux pleurer devant le Seigneur. David était un homme qui a beaucoup pleuré. Ce ne sont pas tes gémissements. David a beaucoup gémi. Ce n'est pas ça qui change les choses. Bien sûr, le cœur du Père est touché. Mais ce qui fait bouger les choses, c'est lorsque tu entres véritablement dans cette prière-là qui ébranle les fondations de l'ennemi, les fondations de ta prison. Tu es prisonnier de certaines choses dans ta vie. Prie et loue le Seigneur. Tu vois des gens autour de toi qui ont besoin de délivrance. Prie et loue le Seigneur. Proclame ce que Dieu a dit. Nous ne proclamons pas assez ce que Dieu dit dans sa parole. Les décrets, il y a des décrets, des lois divines. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, il n'est pas comme moi. Il ne parle pas pour rien dire. Combien de fois, moi, je dis des choses et je ne les fais pas? Je suis le seul, sans doute. Mais on dit plein de choses et on ne fait rien. Mais quand Dieu dit, il le fait. Donc quand tu prends ce que Dieu a dit et que tu le déclares, Dieu va le faire. Dieu n'est pas un menteur. Notre Père n'est pas un menteur. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses comme ça. Une fois, il ne change pas. Il n'y a chez lui aucune ombre de variation. Rien ne change. C'est la prière qui fait bouger les choses. À minuit, l'heure qui représente le point suprême de la crise. Je ne sais pas vous, mais le milieu de la nuit, pour moi, c'est un moment compliqué. C'est souvent dans ces moments-là que je refais ma journée. Alors, cette semaine, j'ai vu qu'il y a un truc. Enfin, bref, j'ai commencé à m'inquiéter par rapport à quelque chose du boulot. Je suis arrivé le matin, la chose était réglée. Des fois, on s'inquiète pour des... Et on ne dort pas pour des broutilles. Non, mais c'est vrai, hein. Et... Au moment, c'est dans la nuit, vous savez où on est vulnérable. Vous ne vivez jamais ça, vous peut-être. Vous n'êtes pas insomniaque comme moi. Mais il y a des moments, il y a des poussées d'angoisse qui peuvent venir. Pas vous ? Ah, moi, ça m'arrive souvent. Hein. Et les trois quarts, non, je dirais 99% du temps, je prie. C'est vrai. À minuit, l'heure qui représente le point suprême de la crise, il commence à libérer la prière, à chanter des louanges dans la prison. Pourquoi on loue le Seigneur ici le dimanche matin ? Bon, je vous pose la question, je vous donne la réponse. Je suis un bon prof, hein. Je suis trop bon. C'est pas pour faire de l'ambiance. Moi, à chaque fois que je vois une parole, je la fais mienne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand je prie tout à l'heure, que j'entends ce chant, merveilleux chant, « Abba, Père, je suis à toi », je déclare que je suis fils du roi. C'est pour ça qu'on fait des chants de louange ici. C'est pas pour une ambiance. C'est pour déclarer la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un gros travail et qu'on fasse attention. Je m'adresse au lead. Faites attention à ce que vous choisissez comme chant. Parce que ce que vous chantez, vous devenez ce que vous chantez. Quand vous chantez des chansons mélancoliques, hier soir je suis allé à un mini-concert, il y avait des enfants, une chorale avec des enfants, c'était tout mignon de voir des petits bouts comme ça chanter. Mais j'ai fait tous les chants étaient des chants mélancoliques. Après, il y a quelqu'un qui chantait, très bien, et cette personne a proclamé des choses. Là, c'était des chants de victoire. Comprenez ce que je veux dire ? Faites attention à ce que vous chantez, faites attention à ce que vous lisez, faites attention à ce que vous regardez. Je ne vous dis pas d'aller au monastère ou d'aller au couvent, mais faites attention. Ce que vous lisez, ce que vous chantez, ce que vous proclamez détermine ce que vous êtes. Ce que nous proclamons détermine ce que nous sommes. Là, c'était vraiment intéressant parce que je ne sais plus qui m'a dit ça dernièrement. Il m'a dit, c'est Aldora, maintenant je m'en souviens, c'est par rapport à David. David, avant d'aller couper la tête de Goliath, lui mettre, vous savez, le lancer avec sa fronde les pierres, qu'il prend dans le torrent, la première des choses que fait David, il proclame. Il proclame. Au nom de l'Éternel. Je ne sais plus ce qu'il dit, mais il dit les choses. C'est vraiment intéressant. C'est ce qui l'amène dans la victoire. Hein. Voyez le contenu de leur prière. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se lamentent pas. Mais ils déclarent le règne de Dieu par la prière et l'adoration. Ils étaient là où Dieu les voulait, dans la forteresse de l'ennemi. Parce qu'en réalité, tout ce qui s'est passé n'avait qu'un seul but. Vous savez ce qu'il voulait faire, Dieu, là ? À travers les difficultés, il voulait qu'un homme soit touché, le gardien de la prison, que sa famille soit touchée, et Dieu voulait créer une église à travers cet événement dans cette ville. Est-ce que tu te rends compte que parfois, tu peux vivre des choses terribles, dures dans ta vie, qui serviront à la gloire de Dieu ? Parce que dans notre fonctionnement, on pense que tout ce que nous vivons doit aller comme sur des roulettes pour la gloire de Dieu. Non, c'est à travers les difficultés que tu vis, les souffrances que tu vis, que Dieu veut manifester sa gloire, sa puissance pour amener, il y a un but derrière. Et ça, Paul, il l'avait compris. Silas l'avait compris aussi. Il dit, Seigneur, tu veux faire quelque chose ici. À travers mes difficultés, tu veux qu'il sorte quelque chose de bon. C'est une église dans cette ville. Waouh. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on voit trop facilement les difficultés, les épreuves de notre vie d'une manière négative. On passe notre temps à se lamenter sur les difficultés. Alors peut-être que, je dis bien peut-être, réfléchissez qu'il y a quelque chose de bon que Dieu veut faire à travers ça. Ah, c'est ça la bonne nouvelle, hein ? C'est ça l'évangile. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. L'Église n'est pas un club. Le corps du Christ n'est pas un club. Hier, les enfants ont regardé La Passion du Christ à la télé. Bon, je ne l'ai pas trop regardé parce que je voulais... Mais j'ai vu à un moment des scènes de violence sur Jésus, ce qu'il a subi. Et Jésus l'a dit, vous n'êtes pas plus grand que le maître. On vous rejettera. On vous insultera à cause de votre foi. Ah, peut-être
qu'il y en aura moins ici la semaine prochaine, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Le corps de Christ exige aussi la souffrance. De croire que la souffrance, en devenant chrétien, disparaît, c'est un leurre, c'est un mensonge, c'est faux. Après, il faut voir comment tu gères la souffrance derrière l'épreuve. D'accord. Comme j'ai entendu tout à l'heure, ce qui fait la différence, c'est notre foi et ta présence dans ma vie. Regardez ce que provoque la présence de Jésus dans cette situation. Ce ne sont pas tes émotions qui doivent diriger tes prières, mais c'est ce que Dieu dit. Et ce n'est pas ta peur, ta panique qui ébranlera les prisons, mais la prière et l'adoration. Alors, un petit rappel. Je suis pédagogue, là. Quatre choses, quatre principes qu'on doit retenir pour nous. Un, tu as une destinée, c'est prendre du terrain que tu n'as pas encore. Cette église, ici, elle a une destinée, c'est aller au carrefour de trois villes, Mouveau, Bondu, Marc-en-Barœul. Elle est dans un point stratégique. Spirituellement, on est ici et on tient notre place dans ce lieu parce que ce lieu doit appartenir au Seigneur. Et ces trois villes, le royaume de Dieu doit être implanté dans ces trois villes. Sur le plan personnel, exactement la même chose. Qu'est-ce que tu ne possèdes pas aujourd'hui ? Est-ce que tu ne possèdes pas un sentiment de sécurité ? Est-ce que tu ne possèdes pas totalement la paix ? Est-ce que... Vous comprenez tout ce que je veux dire ? Sur le plan personnel, on a peut-être aussi des situations. Mais Dieu nous dit, je veux te donner. Le deuxième principe, c'est que tu dois être là où Dieu te dit d'être. Donc, reconsidère ce qu'il t'a dit. Je pèse mes mots, là. Reconsidère ce que Dieu t'a dit. Va chercher dans les paroles qu'il t'a données. Reconsidère et reviens sur ces paroles. À chaque fois que j'ai fait cela, parce que je ne suis pas meilleur que vous, il y a des moments où j'ai abandonné cet aspect-là des choses, mais à chaque fois que j'ai réécouté, j'ai relu et que j'ai prié par rapport à ce que Dieu m'a dit, c'était l'enclenchement de quelque chose dans mes propres épreuves. Troisième principe, toute obéissance amènera automatiquement une opposition du diable. Oui, le diable existe. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un système de pensée, c'est réellement quelqu'un. Il a une armée avec lui et il s'oppose à tout ce que tu pourras faire pour que le royaume de Dieu s'installe autour de toi. Et le quatrième principe, ne laisse pas tes émotions t'envahir et te paralyser, mais loue le Seigneur tout en proclamant sa parole, c'est là une arme efficace. Est-ce que vous êtes convaincus de cela ? Si vous êtes convaincu, j'ai réussi ma mission que le Seigneur m'a demandé de faire ce matin. Si vous n'êtes pas convaincu, je prierai. Je n'ai pas que ça, c'est autre chose à faire. Les résultats. Regardez les résultats de quelqu'un qui rentre dans cette dimension-là. Regardez. Première. Les portes de la prison sont ébranlées et c'est bien plus qu'un tremblement de terre. Regardez ce qui se passe. Les portes s'ouvrent. Il y a des portes, si tu trouves qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie, plutôt que de pleurer, de t'interroger, de t'inquiéter, prie, loue le Seigneur, proclame ce que Dieu t'a dit. Les chaînes de tous les prisonniers tombent, pas simplement les tiennes. Ça veut dire, c'est comme si y a un effet domino, si je puis dire. Vous connaissez, j'aime bien regarder ça. Des fois, il y a des concours du monde de... Vous savez, ils mettent des jours et des jours, ils sont fous d'ailleurs. Ils passent leur temps, une semaine des fois, à mettre domino par domino, et puis on a un tac, tout s'en va. Enfin bon, si ça leur plaît de faire ça. Mais moi, j'ai envie de faire, de jouer au domino et de faire en sorte, vous imaginez, quand j'ébranle un truc autour de moi, quand il se passe quelque chose, il y a un effet résonance. Et tout géologue, enfin les sismologues, vous diront que tout tremblement de terre, il y a un effet résonance, c'est pour ça qu'il y a d'autres secousses derrière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a toujours un effet d'onde de choc. Moi, personnellement, je vais vous donner un exemple. Un jour, nous étions, Maryse et moi, loin du Seigneur, pas loin de nous séparer. un homme rencontre ma femme. Il dit, nous allons prier. C'était, il priait dans un groupe de maison à l'église de Roubaix. Il prie pour nous, onde de choc, dans le cœur de ma femme. Résonance dans ma vie. Résonance auprès de ma famille. Le jour de mon baptême, mon frère aîné se convertit. Dans le mois qui suit, ma mère se convertit, etc., 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 etc. Vous comprenez l'onde de choc ? Là, il y a les chaînes des prisonniers qui tombent, leurs propres chaînes tombent, mais derrière, il y a tout qui bouge. Si je pouvais vous encourager ce matin à prier, parce que quand vos chaînes tombent, il n'y a pas que vos chaînes qui tombent, les chaînes autour de vous tombent. Le salut est accordé au gardien de prison et à toute sa famille. C'est une œuvre puissante révolutionnant des familles entières. Et enfin, des changements notables dans la vie de cet homme. Le bourreau va devenir agneau. Tu peux me faire la brebis ? Voilà. Vas-y. Voilà. Je m'étais dit cette nuit, je le fais ou je le fais pas ? Je dis, c'est trop beau. Le bourreau devient agneau. Ce qui ne veut pas dire que tu étais un bourreau avant. Hein. Non. Il pense les plaies. Regardez un peu le changement de comportement de cet homme. Cet homme était un tortionnaire. Il met des chaînes aux pieds. Il fait battre de coups de bâton ses hommes. Et cet homme était un bourreau. Il change. Ce qui va changer les personnes autour de toi, c'est ta vie de prière. C'est la prière. Vous savez, il y a des gens qui proclament la parole de Dieu et dont les vies sont en totale... J'en connais. Hein. Ils se proclament chrétiens, ils ont une vie qui est complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Non, là, ce sont des hommes qui prient, qui disent « Seigneur, tu veux faire quelque chose ?» Bien sûr, c'était la volonté du Seigneur de toucher cet homme, mais cet homme devient un agneau, il panse les plaies, il se fait baptiser. Waouh ! Avec toute sa famille, allez, tous au jus, tous au bain. Il accueille l'équipe dans sa maison. Eh, vous voyez un peu ce qui est en train de se passer ? Un ennemi devient notre ami. Sa maison va devenir une maison de prière. Toute la famille se réjouit. Il y a une œuvre puissante de changement chez ceux que tu rencontreras et à qui tu auras témoigné. Et ceux qui avaient mis Paul et Silas en prison. J'ai oublié quelque chose, hein. Ça, c'était pour les gens qui ont tout lu avant, qui n'ont rien compris. C'est bien fait pour vous. Ceux qui avaient mis Paul et Silas en prison leur demandent, lisez le texte après. Ils se mettent à le genou et disent, si vous pouviez quitter la ville. Waouh ! Les gars qui avaient une autorité sur eux viennent se mettre à leur genou. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte que spirituellement, il y a des personnes, enfin, il y a des êtres qui sont en dessous de nous, qui nous assaillent, qui nous seront soumis après. Et ça, c'est la prière. Je vous laisse avec un petit résumé d'un verset. Je vous le lis. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. C'est ma prière pour vous et pour moi ce matin. C'est une prière que je fais pour vous. C'est la parole de Dieu, je la proclame. Je sais que c'est une déclaration, un décret divin. Donc je prie pour que ça vienne en vous, d'accord ? Et le glaive à deux tranchants, vous savez ce que c'est le glaive à deux tranchants ? C'est la parole de Dieu, hébreu, d'accord ? Dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Oh, c'est puissant, hein, ça. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je crois que Dieu en a marre de voir les hommes souffrir. Il est patient, le Seigneur, mais là, je pense qu'en ce moment, il voit. Il dit, ça ne peut plus durer. Je vois ce pays souffrir. Je vois ces gens souffrir. Et je voudrais que les louanges soient dans leur bouche et qu'ils utilisent ma parole à deux tranchants. Une épée à deux tranchants. Et qu'ils utilisent cela, regardez, pour exercer la vengeance sur les nations. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qu'un homme sème, il le récolte. Tout ce qu'un grand, un roi, une autorité sème, elle le récoltera. Et c'est extraordinaire, mais Dieu pourrait dire, je vais le faire ça tout seul. Eh bien non, il veut le faire avec vous. Il veut le faire avec nous. Entrez dans le combat. Entrez dans la prière. Entrez. Et si vous voulez vous mettre en route, c'est le moment. La semaine prochaine, il y a un autre livret qui vous sera donné, qui sera un livret de prière qui reprend des versets de la parole. Il y a des prières de consolation, il y a des prières pour vos proches, des prières qui sont toutes écrites, qui peuvent vous aider à commencer à prier ou à prier. Il y a des prières de combat, il y a des choses qui vont vous aider. Et vous allez voir, à la fin, il y a un petit... deux, trois pages où vous pouvez mettre vos sujets et mettre l'exaucement de votre prière. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Père, tu veux ébranler les fondements. Tu veux secouer, si je puis dire, ce qui s'oppose à ta volonté. Ce qui s'oppose à ta volonté dans nos vies, ce qui s'oppose à ta volonté dans l'Église, ce qui s'oppose à ta volonté dans notre vie de travail, dans notre vie de famille, dans nos circonstances, dans nos situations. Père, nous voulons acquérir ces principes divins que tu nous montres dans ta parole. Ces principes de ta parole, ces principes qui nous montrent que nous devons commencer par louer et prier le Seigneur comme étant une priorité sur notre vie, en déclarant, en proclamant tes décrets, en proclamant ta parole, en proclamant la vérité, en proclamant ce que toi tu vas faire. Merci Seigneur parce que je prie pour les personnes qui sont dans l'épreuve actuellement, pour que tu leur montres Seigneur que ce n'est pas uniquement quelque chose de négatif ce qu'ils vivent. Mais qu'il y a quelque chose de bon et qu'il y a toujours quelque chose de bon que tu veux montrer et que tu veux faire à travers les circonstances de nos vies, si difficiles soient-elles. Et je prie, Père, pour que tu encourages. Je prie pour que tu sortes ces personnes d'un fonctionnement de repli sur soi, d'un fonctionnement de lamentation, d'un fonctionnement de tristesse, d'un fonctionnement qui les a paralysés dans leur service, dans leur prière. Je prie, Père, pour que tu ranimes la flamme de la prière dans leur vie. Et je demande, éternel mon Dieu, une puissante œuvre de ton esprit dans leur vie. C'est toi qui le fais, Seigneur. C'est toi qui opères ces choses. Et ensemble, tous ensemble, nous déclarons que nous voulons entrer dans la prière, dans l'intercession, dans le combat, ne pas nous relâcher et ébranler tout ce qui s'oppose à ta volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen.